Hé, hey, tonton!
Verveine, verveine.
What's happening? What's happening?
Hey. Underground.
Verveine Underground.
Eric Saint-Élégant pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein?
C'est nous le futur!
Bonsoir et bienvenue dans Verveine Underground. On se retrouve chaque soir sur Europe 1 de 20h à 22h avec des invités qui viennent se raconter en musique. Ce soir, je reçois la journaliste, cofondatrice du magazine Mint et du restaurant parisien Maison Maison, Déborah Femme. Comment ça va?
Ça va super, et toi?
Ça va très bien déjà, je tenais à te féliciter pour ce magazine. C'est une véritable réussite à l'époque où la presse papier tend à mourir. Mint fait renaître l'amour du papier. C'est un magazine sublime, excellent, passionnant, où il y a tout ce que j'aime. De la food, du voyage, de l'art de vivre. Et moi, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Manger, voyager et vivre. Et on y ajoute la musique, t'es venu avec une playlist exceptionnelle. Au dernier numéro de Mint, on peut lire une rencontre avec une femme devenue bergère, un reportage sur la cuisine ouïghour et une question, les champignons sauveront-ils le monde? Alors, tout simplement, qui fait quoi dans les réunions de rédaction?
Alors, en fait, effectivement, comme tu le dis, il y a un côté Mint, il y a la food d'un côté, l'artisanat et le voyage. La crise du Covid nous a un peu coupé les pattes hein, pour le voyage en vrai. Donc on a un peu réinventé le magazine, enfin on a essayé de se réinventer. Mmh. Et on fait beaucoup plus de sujets sociétaux. Donc effectivement, quand on parle de cuisine ouïghour, en fait c'était un vrai manque. C'est que la communauté ouïghour, on en parlait toujours dans des termes très pratiquement déshumanisants parce qu'en fait on le rattachait systématiquement à la fast fashion. Donc en fait on ne pouvait pas parler de ouïghour ou de culture ouïghour sans parler de H&M, Zara, machin. Et à force de lire ce truc, on s'est dit, mais attends, c'est quoi en fait? C'est quoi? Comment ça se fait? C'est quoi la cuisine ouïghour? Donc on regarde la cuisine ouïghour, on se dit, attends, c'est marrant, ils ont un plat, c'est la chorpa. Ça ressemble un peu à chorba. Et il y a les mêmes marqueurs aromatiques. Donc c'est quand même un délire qu'en fait, au bout du monde, t'es cette culture. Il y a énormément de musulmans en fait en Asie, donc c'est hyper intéressant. Et aussi... ouais, voilà, j'ai trouvé ça passionnant, fascinant. Et en fait, on sait pas grand-chose de la Chine en vrai. Enfin, ça fait combien de fois la France, quoi? Enfin, 17 fois la France, j'en sais rien. Ça se trouve, je suis en train de dire une grosse connerie.
Peut-être.
Je ne suis qu'un baquel.
Et j'acquiesce.
Ouais, et c'est ça. Et je lui donne raison. Voilà.
Ça ne me rend pas complice pour autant.
Non, c'est ça. voilà, donc on s'est dit que c'était un sujet qu'il fallait traiter. Donc l'idée de Mine, c'est en fait essayer de parler de cuisine, mais toujours avec un pendant, enfin souvent avec un pendant sociétal, mais après on peut aussi avoir un petit côté drôle, parce que j'adore l'humour. Donc est-ce que les champignons quelqu'un de rigolo.
Bah ouais.
Est-ce que les champignons vont sauver le monde? En fait, c'est aussi hyper intéressant parce que tu vois que aux États-Unis, parce que c'est les États-Unis, ils commencent à microdoser les champignons hallucinogènes. Enfin, ils expliquent comment ça peut soigner la dépression. Il y a aussi des champignons qui permettent de faire des matières, des briques, des trucs pour construire des maisons. Enfin, c'est assez ouf, en fait, tout ce qu'on peut faire. Il y a des champignons, comment ça s'appelle, le matsutake, je crois, qui est hyper fameux au Japon et qui rend ouf les gens. Les gens l'achètent à prix d'or. Enfin, c'est leur truffe, en fait, si tu veux. Mais je crois encore plus cher parce qu'on est au Japon et voilà.
Et tout est plus cher.
Et tout est plus cher et tout est rare. Oui, et tout est mieux aussi. Je te rejoins complètement là-dessus. Et en fait, c'est un champignon qui naît que sur des terrains qui ont été malmenés. Donc, où tu as eu des incendies, des machins. Et tu as des mecs aux États-Unis, non, c'est pas aux États-Unis, c'est au Canada, qui se font des raids pour choper tous les matsutake et les vendre à prix d'or. Et voilà, en fait, je trouvais. En fait, c'est tellement multiple. On a commencé Mint en faisant des portraits de chefs.
Ouais.
Et maintenant, vu que l'année prochaine, ça fait 10 ans quand même que je fais ça, on a essayé de chercher une autre manière d'aborder la food qui ne soit pas de la bonne adresse. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui font ça mieux que nous déjà. Mmh. Mais qui te donnent envie de suivre une histoire, de rencontrer des gens. C'est ça le truc.
Ici, c'est une émission où on aime parler de musique. Et moi, j'ai le même rapport avec la musique et la nourriture. C'est un rapport d'instinct, c'est un rapport instantané. Et la musique peut raconter le monde comme la nourriture peut le raconter.
Mmh.
En quoi un bon plat peut raconter quelqu'un?
En quoi un bon plat peut rencontrer... Ouais,
ou une société, ou une culture?
En fait, c'est drôle, mais c'est toujours le truc qui rejoint. Nous, en plus, en France, on a un peu ce côté, quand on est à table, on est déjà en train de parler de ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on va manger demain, etc. Mmh. On est à fond là-dedans. Mais en fait, oui, quand tu fais manger à quelqu'un, même au niveau de la famille, même pas besoin d'aller au resto, mais t'as l'impression de découvrir quelqu'un sous d'autres angles. Mmh. Je sais que, par exemple, quand je reçois chez moi, il y a des gens qui vont être... Enfin, qui vont comprendre un petit peu un certain itinéraire en fonction de ce que je vais cuisiner. Donc, je sais que vu que j'ai habité au Japon, j'ai pas mal de sauces que les gens ne savent pas forcément utiliser et que je vais mettre dans ma cuisine parce que pour moi, c'est logique et que j'ai l'habitude de le faire. Quand tu es invité chez la mère d'un pote, il n'y a rien de plus génial, en fait, parce que là, tu as vraiment l'impression que tu découvres... En fait, la nourriture, c'est de l'intimité, de fou. Mmh. Et ça, c'est assez chouette. Et après, dans le restaurant, ça se transmet aussi parce que... Bah, une autre échelle, parce qu'il y a une côté performance, surtout maintenant. Mmh. En fait, la cuisine, c'est plus juste tu t'assieds, tu viens manger. Un peu plus depuis le Covid, bah, on a quand même retrouvé les restaurants un peu différemment, mais avec tous les 50 best, les concours culinaires, les émissions de télé, tout autour de ça, il y a quand même une espèce de course à l'échalote.
Et puis il y a cette émission, à part cette expression, qui s'appelle Un dîner presque parfait.
Ouais, effectivement, c'est drôle que tu me parles de ça parce qu'ils en ont fait une il n'y a pas longtemps avec Afida Turner et j'ai pas pu m'empêcher de les regarder.
Mais ouais. Ça, on peut regarder ça où?
Je t'enverrai le lien à la fin de l'émission. Oui. Plaisir.
Un dîner presque parfait, cette espèce de standardisation du dîner, de ce qu'il faut faire, de comment se comporter, de comment présenter. Est-ce que finalement, c'est pas l'anti-mint?
Ah, mais complètement. Bah, t'as très bien analysé le magazine et puis surtout cette émission, c'est vrai que c'est un peu le principe, c'est un peu l'enfer. J'admets que nous, on n'a jamais fait de critique dans Mint. C'est pas trop un truc qui m'intéresse. Je dis pas, elle est essentielle hein, dans plein de domaines, c'est bien d'avoir de la critique, mais aussi j'ai tendance à penser que la critique, elle est bonne à lire et à écrire quand elle est méchante. Et en fait, tu sens parfois qu'il y a des critiques qui se font un kiff à désinguer quelqu'un. Il y a un petit côté... Ah ben là, je lui ai mis un petit taquet, on va voir comment il réagit. Ouais. Et ça, c'est... Et en fait, les critiques positives ne sont pas les plus kiffantes à lire non plus, en vérité. Donc bon, c'est pas un exercice qui me plaît et c'est pas vraiment quelque chose que je voulais voir dans Mint. Donc même la bonne adresse dans Mint, on la traite d'une autre manière, ça veut dire qu'elle est curatée par des personnalités du monde de la gastronomie le plus souvent. Donc en gros, comment je vais faire? Ben tiens, j'ai fait ça avec Théo Pourriat, que tu as déjà reçu dans cette émission, où je lui dis...
Du restaurant Le Septime.
Du restaurant Le Septime, exactement, qui est donc sommelier. Je lui demande, donne-moi une adresse. Je lui dis, je ne veux pas ta meilleure adresse. Parce que si tu demandes la meilleure adresse, tu as quand même, je pense, pas mal de gens qui vont dire Noma à Copenhague. Mais bon... peut faire autre chose. Donc, je demande une adresse où tu constates...
Ou le kebab de Batignolles.
Mais franchement, en fait, ouais, je veux le resto où t'allais quand t'étais gamin, je veux le resto où t'as fêté ton bac avec tes parents, ton premier date où c'était genre fou, où il y avait une espèce d'alignement des planètes. En fait, il y a parfois dans les restaurants un moment de temps suspendu. Et ça peut être... Ça peut être parce que le paysage est dingue. Ça peut être parce que, en fait, la serveuse, elle a été hyper gentille avec toi. Il y avait juste ce qu'il fallait de bienveillance et de distance dans le service. Parce qu'en fait, on parle beaucoup des chefs, on parle pas beaucoup des gens en salle, malheureusement. Mais en fait, c'est un taf. Et c'est, ils peuvent te changer. Tu peux avoir le meilleur plat du monde. Oh là, la blanquette est bonne. Bah ouais, super bonne. Par contre, si la serveuse a été désagréable ou trop pushy, bah, ça peut te flinguer le rendez-vous.
Toi, dans tes activités, tu as également un restaurant.
Ouais.
Raconte-moi ça.
Alors, c'est un malentendu, mais ça a marché. En gros, ils ont fermé les voies sur berge à Paris. Donc, l'idée, c'était de gagner cette concession pour ouvrir maison. Et on y allait un peu les mains dans les poches. Et ça a super bien fonctionné parce qu'en fait, à la mairie de Paris, ils ont adoré l'idée de... Il y avait ce côté sans concession, en fait, qu'on voulait. Donc, tu vois, on était sur une espèce de vibe qui se fait beaucoup maintenant, et puis depuis des années en vérité, mais de produits très locaux, faire bosser les gens du coin, essayer de faire fonctionner une agriculture plus vertueuse. C'était un peu ça ce qu'on voulait faire. Avant, ça se rejoint aussi avec le vin. On n'a pas de Coca-Cola. Et tu vois, on a une terrasse immense au pied de la Samaritaine, donc tu peux être sûr qu'on va nous demander un Coca 40 fois par jour. Et c'est comme ça, et en fait, à chaque fois, il va falloir qu'on explique non, il n'y a pas de Coca-Cola, non, il n'y a pas d'Heineken. Et en fait, voilà, le principe, c'était, il y a 36 000 terrasses à Paris, vous pouvez avoir ce que vous voulez, où vous voulez, mais chez nous, en fait, on va essayer de faire fonctionner les gens. On va essayer d'aider les gens qui sont proches de nous.
Donc la cuisine, c'est politique?
La cuisine, c'est super politique. Et ça, c'est assez chouette. Et c'est marrant, il y avait un livre qui était sorti, Les secrets de table politique, je crois que ça s'appelait comme ça, où on voyait ce que les politiques aimaient manger. Mmh. Et c'est drôle parce qu'en fonction des plats qu'ils aiment, tu commences à dire, ah ouais, finesse, tu refais le match un peu. Tu vois, tu dirais, bien sûr, évidemment qu'il aime la tête de veau. Mmh. Voilà. Mais oui, c'est politique parce que, en fait, tu sais, quand on dit consommer, c'est décider, ben en fait, tu fais de la politique tous les jours en choisissant de ne pas manger des produits qui viennent du bout du monde, de ne pas manger ou de réduire, hein, on n'est pas non plus... mais voilà, de pas manger des produits qui viennent du bout du monde, de faire attention à d'où ça vient, dans les conditions dans lesquelles ça a été produit. En fait, comme ce qui nous arrive avec la mode aujourd'hui, j'ai l'impression que notre génération, elle n'a jamais été aussi à fond de se dire bah, « En fait, je n'ai pas envie de faire bosser des gens dans des caves au bout du monde. » Et ça, c'est pareil pour l'agriculture. C'est pareil parce qu'on n'a plus envie de flinguer la planète. Et en fait... l'agriculture, c'est un monstre en France, c'est énorme ce que ça représente. C'est complètement politique.
Et à l'époque des restrictions alimentaires, qu'elles soient diététiques, qu'elles soient religieuses, ou qu'elles soient comme le sans gluten ou des choses comme ça, comment est-ce qu'on fait un magazine comme Mint pour satisfaire tout le monde?
En fait, finalement, Mint, on raconte des histoires. Donc, c'est même pas des sujets qu'on traite trop, finalement. Mais on essaie d'être le plus ouvert possible. Le principe, c'est quand même l'inclusivité. Et puis, en fait, ce qui est chouette dans ce magazine, c'est que ma valeur, la valeur étalon du lecteur, la lectrice, pour moi, c'est ma mère. Donc, je me dis, quand elle ouvre le magazine, il faut qu'elle capte. Donc, par exemple, le sujet sur les Ouïghours qui a été écrit par Grace Lee, qui est une excellente journaliste qui a le podcast Kif Taras avec Rokaya Diallo, a fait ce papier. Et je lis le chapeau et je me dis, ah ouais, ma mère, elle va pas capter là. Du coup, je lui fais rebosser le chapeau. Et c'est drôle, mais c'est toujours ce que je me dis, c'est que je veux absolument que toi, Mouloud, ma mère, il trouve quelque chose à grignoter. Et en fait, tu vas le prendre, tu vas le grignoter un peu, tu vas le reposer, tu vas y revenir. Il y a ton frère qui va le prendre.
Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à une table avec ou sans ta mère, avec quelqu'un qui dit moi, je mange cachère, moi, je mange pas de porc, moi, je mange sans gluten, moi, je mange halal. Est-ce que tu as déjà composé avec des trucs comme ça?
Ça m'est jamais arrivé, mais par exemple, oui, ça m'arrive d'avoir. En fait, j'ai l'impression que les restaurants ont quand même bien fait le taf maintenant, où en fait, on n'a plus besoin de se. Pour les véganes, c'est peut-être un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais dans la bistronomie parisienne, j'ai l'impression que tu peux vraiment plus facilement te faire kiffer. Après, c'est vrai que sur le sujet du halal, c'est peut-être pas le cas et j'en sais rien. C'est vrai que c'est un sujet, carrément.
T'as été végane ?
J'ai été végétarienne pendant 10 ans.
Ouais.
Voilà.
Et pourquoi t'es revenue dans le game ?
Alors, pourquoi je suis revenue dans le game de la viande ? J'ai arrêté de manger de la viande. Donc, quand j'habitais au Japon, je mangeais pas de viande, dis-toi, ni de poisson. Un peu compliqué là-bas.
Challenge.
Toi-même, tu sais que c'est quand même le régime alimentaire là-bas. Le poisson, c'est difficile de s'en passer. Mais quand je suis partie, j'ai fait un reportage à Singapour et le chef m'a dit vous êtes mignonne, mais bon, vous pouvez pas manger ce que je fais. Et j'écrivais déjà en fait sur la bouffe à ce moment-là. Et je suis partie après en Indonésie et j'ai craqué. J'ai mangé du poulet.
Ouais.
Mais en fait, ça faisait un moment que ça me travaillait. J'étais partie.
Le
poulet, l'odeur du poulet, quand tu passes à côté d'une rôtisserie, j'ai toujours aimé la viande, j'ai pas arrêté de manger de la viande parce que j'aimais pas ça. C'est juste que je réalisais que les conditions d'élevage, d'abattage, c'était pas possible. Maintenant, ce qui est chouette, c'est que la chance que j'ai avec mon métier, c'est que je m'informe beaucoup. Donc, quand j'achète ou quand je consomme de la viande, même au restaurant, je sais presque qui l'a produit. Mais qu'elle ferme, je fais hyper attention.
Mais elle est où la place du kiff dans ça, en fait, dans cette façon de consommer? De se dire, il faut que je sache d'où viennent la viande, d'où viennent les fruits, d'où viennent les légumes.
En fait, c'est un peu comme pour tout. Est-ce qu'on se pose la question de comment mes baskets, elles ont été faites? Ça fait partie du devoir. Après, j'avoue que quand je vais dans certains restaurants, je me fais pas des nœuds au cerveau à me dire, oh là là, alors attends, est-ce que lui, c'est du porc bien élevé? Je sais pas, est-ce que le poulet là, il est... Les restaurants qu'on a à Paris, souvent la chance qu'on a, c'est que on sait à peu près, on connaît à peu près le sourcing, comme on dit.
Tu viens d'Alsace ?
Ouais.
Et la bouffe en Alsace, qu'est-ce que t'en gardes ? Qu'est-ce que t'en retiens ?
C'est riche. C'est super. J'adore la cuisine d'Alsace, mais ma mère, elle en cuisinait pas, donc je suis pas hyper pro. Mais pour autant, je suis assez chauvine. J'aime beaucoup cette région.
Ouais.
Ouais. J'ai écouté Kalash la dernière fois, j'ai appris qu'il venait d'Alsace. J'étais contente.
Et pourtant.
Et ouais.
Tout vous sépare.
Mais tout nous rassemble.
Mais l'Alsace vous rassemble. T'es venu avec une playlist Déborah Femme du magazine Mint. On écoute Grand Master Flash de Message. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much. It's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation. Can't take the train to the job. There's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back. Can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane. I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, close to the edge. Trying not to lose my head. On vient d'écouter The Message de Grandmaster Flash avec une imagination incroyable. Comment ça va, Déborah?
Ça va super.
Alors, il y a aussi énormément de questions que je vais te poser. Donc, tu tiens ce magazine qui est Mint, tu as ton restaurant.
Ouais.
À quel moment tu trouves le temps d'imaginer des choses encore?
Tout le temps. Mais je pense comme plein de gens, ça, parfois ça t'arrive de... Tu vas te coucher, t'as une idée de génie, ou alors quelqu'un te parle et tu fais « Ah, super !» Ouais, en fait, un peu schizophrène, c'est ça le secret. On est plusieurs. Non, mais je sais pas, en regardant des films, en regardant ce qui se fait un peu à l'étranger. Et puis, en fait, je crois vraiment que le cœur du métier qu'on fait, tous les deux, tu vois, journaliste, c'est la curiosité. Donc, en fait, je pense que le jour où je perds ça, et où j'ai plus envie d'être curieuse, ça va être compliqué. Mais en fait, ce qui nourrit le plus nos métiers, c'est les rencontres. Mmh. Donc tu rencontres quelqu'un, il se passe un truc, t'as l'impression que t'as eu une connexion Bluetooth automatique et tu te dis « Ah ouais, là je vais creuser ce sujet-là parce que c'est hyper intéressant. »
J'ai écouté, pour préparer cette émission, un entretien où il y avait un journaliste chez toi et t'as sorti de ton placard un thé kombucha. Et qui est un peu la boisson préférée des macronistes. Ils boivent tous du kombucha dans l'entourage de Macron. Et j'ai jamais compris c'était quoi le kombucha. Explique-moi, parce que c'est... je trouve ça dégueulasse perso, mais dis-moi.
T'aimes pas le vinaigre? Alors,
je juge personne, c'est pour ça que les kombuchistes m'envoyaient pas des messages. Je vais avoir des DM, nous les kombucha, on t'attrape à la sortie. Non, vous inquiétez pas, je suis pisse. Je veux comprendre votre délire, c'est tout.
Ok, alors, le kombucha, c'est vrai que ça goûte un peu le vinaigre. Bon, c'est pas terrible. C'est vrai. Mais d'une part, c'est très bon pour la santé.
Bah alors c'est quoi? C'est du thé? Du vinaigre?
Je vais te parler de transit dans deux secondes. Mais oui, t'es sûr qu'on va y aller?
Allez, je t'écoute. On y est.
Parce que vraiment, le kombucha, c'est aussi ça. C'est très bon pour la flore intestinale. Voilà. Et tu peux le parfumer à ce que tu veux. Et c'est pas cher. Alors voilà, ça c'est peut-être
le truc. Mais alors c'est quoi le kombucha? Alors, le kombucha,
c'est une boisson fermentée, gazeuse, et qui est faite à partir d'un champignon, encore lui. Et le champignon s'appelle le scoby.
Scobiton.
Faut qu'on change de sujet, on va jamais le craquer.
Le kombucha, je veux comprendre le kombucha là.
Alors le kombucha, donc boisson fermentée, gazeuse, bonne pour la santé, mais qui est faite à partir du thé noir, de sucre. Et donc t'as un champignon qui s'appelle le scoby. Et en gros tu mets tout ce petit monde ensemble, les bactéries du champignon viennent manger... Comme avec le vin, tu vois, viennent manger le sucre. Et après, elles pètent, ça fait des bulles.
D'accord.
Et donc, ça devient une boisson pétillante.
Très bien.
Franchement...
Tu m'as converti au kombucha.
C'est vrai.
Et on peut le faire
je ramène une bouteille.
À tous les goûts.
On peut le faire à tous les goûts, ouais. J'en ai fait un au CBD il n'y a pas longtemps, figure-toi. D'accord. Ouais. Comment je l'ai appelé? Je lui ai donné un nom hyper drôle, mais j'ai oublié. Je leur donne des petits noms.
D'accord.
Ouais, je sais pas. Babylone, je sais pas. Non, j'ai trouvé un truc plus drôle que ça.
Kombucha Noman.
Kombucha, super. Je te dirais.
Le kombu de Kalash.
On peut tout faire, ouais.
On peut tout faire. Waouh. Et c'était quoi ton plus beau souvenir de kombucha?
Non, mais c'est pas possible. C'est un bizutage, en fait. Je pensais qu'on allait switcher. Mon plus bon souvenir de kombucha, en fait, c'est quand j'ai réussi à faire vivre un kombucha. C'est vivant, ce truc-là.
Tu le vois à vivre ou t'as un microscope?
Non. Tu vois le fantôme, le monstre dans Ghostbusters?
Très bien.
C'est lui.
Bouffe tout?
Ouais. C'est vraiment le kombucha.
T'as vu le remake de Ghostbusters ou pas, le dernier?
Ah non, j'ai pas vu.
Il est pas mal.
C'est vrai?
Ouais. Vraiment pas mal. Ce qu'on voit, un petit peu bouffetou, un peu vieux et tout, c'est vraiment pas mal. Moi, j'avais bouffetou, on jouait en plastique et il était phosphorescent.
Ouais, c'est un blob en fait.
Ouais.
Et le kombucha, le scoby, le champignon, c'est ça.
Donc c'est pas du thé, c'est du kombucha.
Ouais,
c'est pour
exactement.
Ça qu'on écoute Thé à la menthe, la caution.
Jeune, j'ai souvenir d'une madame Nicole. Un style qui pensait qu'un bounoule n'était pas fait pour l'école. Je portais un velours troué, des bottes rouges en plastique, une cagoule en laine, un chandail ou des plaies baskets. Le coiffeur ne savait même pas encore que j'existais. Mais sois sûr que le premier qui nous a vus s'est désisté. Pourtant jeune et innocent, la mort volée s'enclinait. On squatte le bac à sable avec sa sable et nos idées. Afin de faire du vandalisme, même sans le savoir. Nos parents n'ont pas, donc on erre sans avoir. D'après nos voisins, de gros racistes, je le précise, nous étions mal élevés. Mais leur berger allemand mieux dressé. Moi j'y crois pas, d'ailleurs j'y ai jamais cru. Car parental est le seul amour que j'ai jamais eu. Donc pour pas se vénère, ce qui met à la menthe les vertus du nerne, donc du thé à la menthe.
On vient d'écouter Thé à la menthe de La Caution, morceau cher à mon cœur. Pourquoi t'as choisi ce morceau, Déborah Femme, du magazine Mint?
Ah, j'ai fait une petite gueule Thé à la Mint. Mais je savais aussi que t'aimais La Caution. Mmh. Voilà.
Est-ce que la musique, c'est important quand on doit préparer à manger?
Ah ouais, carrément. À un moment, j'avais même des playlists en fonction des recettes que j'allais faire. Mmh. Ou non, pas des playlists, mais j'allais écouter, je sais pas, tel album pour faire telle recette. Ce qui ouais. me mettait dans un bon mood. J'ai beaucoup écouté la BO de In the Mood for Love quand je cuisinais,
ouais.
qui est trop belle. Mmh. Avec cette chanson qui est vraiment le fil rouge du film, qui s'appelle You Magistem, je crois. Mmh. Trop, trop beau. Et ouais, ça te chauffe. Et en fait, les chefs aussi, ils font ça. C'était un sujet que j'aimais bien en cuisine. Ils ont, je sais pas, il y a un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle Au Passage. Et le chef de l'époque, il avait une playlist de.
Oui, bien sûr, j'écoute.
qui était un peu death metal pour la préparation.
Ouais.
Et après, tout d'un coup, il y a déjà les clients qui arrivent, donc il faut qu'ils se calment aux deux secondes. Et il redescend. Et là, t'as une musique qui est toujours assez fun parce que c'est Au Passage et que
Calmos,
ça rigole.
Calmos, ouais, de S-E-N-T.
Calmos, ouais. De type, une musique de type Calmos, avec un K. Et voilà. Donc oui, la musique, c'est hyper important. Toi, tu t'écoutes de la musique quand tu cuisines?
Ça m'arrive d'écouter de la musique. Est-ce qu'on cuisine mieux par amour ou par amitié?
Oh.
Est-ce que c'est plus facile de cuisiner pour quelqu'un qu'on aime ou pour ses potes?
Bah, ça dépend à quel stade de la relation t'es. Parce que si c'est par amour, il est fort probable que tu te mettes une pression de ouf. Mm. Si c'est des potes, tu vas te dire que de toute façon, ils vont tout te pardonner. Mmh. Mais si t'es au premier, tu vois, si, qu'est-ce que je cuisine pour mon premier date? Si t'es à ce stade-là, t'as quand même pas mal de chances de le flinguer.
Laisse-moi te dire qu'en général, premier date, si t'es déjà dans l'amour, t'es sociopathe.
Oui.
Je suis désolé. Là, je parle plutôt
pas le premier...
dans l'absolu.
Guilty.
T'es amoureuse, pas de problème, tu vois.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu te mets une presse un peu. Et moi, je sais que ça m'était arrivé il y a quelques années. Je faisais des trucs que j'avais vraiment déjà testés avant. Mmh. Et j'avais fait un truc japonais, évidemment. Et c'était c'est une espèce de tonkatsu. Mmh. Et je l'avais fait en 5 minutes et j'ai posé le plat, genre, je viens de bricoler ça, alors que le truc, je l'avais fait.
En forme de cœur ou pas?
Non. Regarde comment je t'ai taillé l'escalope.
Ouais. Tiens, regarde, c'est une bague. Une bague en kombucha.
C'est quoi notre deuxième
date? Champignon.
J'ai pensé que c'était une bonne idée.
Qui va absorber ton âme.
Yes. Exactement. Tu es à moi.
Donc, par amour, c'est plus compliqué parce qu'on se met la pression.
Je pense. Et je dis ça alors que j'ai beaucoup d'amis chefs. Donc, souvent, quand ils viennent à la maison, beaucoup d'amis juste qui vont beaucoup au resto. Mmh. Oui, je me dis... hier, je ne l'aurais pas fait à manger. Voilà, je me suis dit, voilà.
Et quand tu as des amis chefs qui viennent à la maison, c'est eux qui font la bouffe?
Non.
Non,
non, ils se laissent porter. Et puis généralement, ils ne sont vraiment pas compliqués. En fait, les gens qui cuisinent beaucoup dans leur vie, ils n'ont pas hyper envie de faire la même chose. Mmh. Une fois qu'ils rentrent chez eux ou qu'ils vont chez les gens, ils veulent des trucs hyper simples.
Moi, j'ai un chef dont je tairai le nom. Ah. Chaque fois que je suis allé manger chez lui, franchement, il me dit, viens à la maison et tout. Je me dis, il va nous éclater et ouais. tout. On arrive, on se pose. Bon alors, c'est quand qu'on mange, tu vois? On discute, on rigole, super sympa. On attend la bouffe. Et en fait, il y a un mec qui sonne, c'est un McDo. Il nous l'a fait, mais...
C'est pas vrai.
À chaque
mais
fois.
Mais en mode blague?
Ah non, 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 il se tue au McDo, au Quick, au Burger King, ce qu'ils font en cité 3.
Ah, mon pote Guillaume Sanchez, il fait ça aussi.
Ah, toi, tu la balances.
Ouais. Mm. Et d'ailleurs, je crois que les auditeurs et moi, on a envie que tu balances aussi.
Je ne peux pas. Et d'ailleurs, tu te mets à la place des auditeurs. C'est incroyable.
Je pense.
Et on va parler justement des auditeurs d'Europe 1. Tu sais, dans cette radio Europe 1, après nous, il y a une émission, qui est l'émission d'Olivier Delacroix, où il écoute les auditeurs, leurs problèmes, leurs mal-être, leurs soucis, leurs galères. Et Olivier Delacroix essaie de trouver des réponses. Et je vais te soumettre un extrait de ce qui s'est passé dans la libre antenne. Et tu vas voir si toi, tu as une réponse. J'aimerais qu'on écoute ça.
Ma porte d'entrée est... Vous arrivez sur le palier, c'est la seule. Il n'y en a pas deux comme ça. arrosé d'un produit, je ne sais pas quel genre de produit, mais c'est plusieurs produits.
Oui.
Il a jeté quelque chose qui ressemblait à du lait sur ma porte. Et après ça, il a pris l'habitude de jeter continuellement des produits sur ma porte, qui coulent même à l'intérieur de chez moi. Ça mériterait, ça vaut le détour de filmer ça et de passer ça sur les journaux.
Ah oui.
Ah oui, ah oui, oui, oui.
Voilà, c'est le voisin de Patrick, on embrasse Patrick, je suis Patrick, qui jette du lait sur sa porte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Patrick ?
Alors la question, est-ce qu'il faut le filmer ? Je crois que la réponse est oui. Et quand il dit des produits, j'ai envie de savoir si, je sais pas, le mec balance du lait, est-ce qu'il balance de la farine et des œufs aussi ? Enfin, il se passe un truc cool.
Ou c'est-à-dire si c'est vraiment un attentat. Dans l'air. Et ouais, ce serait ça. Incroyable.
C'est ça, une air crêpe. Ouais, c'est ça. Ou alors est-ce qu'il a un chat, Patrick ? Et le mec lui jette du lait ?
Mais c'est peut-être par empathie pour le chat.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai plein de théories là. Oula, scénario se bouscule dans ma tête.
Donne-moi-en une comme ça.
Bah ouais, je pense au chat. Mmh. Et puis je pense aussi au mec qui est en train d'élaborer une recette devant la porte de Patrick. Mais oui, ça vaudrait le coup de le filmer, effectivement. Ou alors il lui jette un sort. Il y a un truc un peu ésotérique.
T'es un peu ésotérique, toi ?
L'astrologie, on peut dire que c'est ésotérique ?
Tu peux dire ce que tu veux, tu sais, à cette heure-ci.
Ok, ça marche.
Donc t'es dans l'astrologie ?
Ouais, j'aime bien. T'es quoi comme signe, toi, Mouloud ?
Lion.
Ah !
Ouais.
Ok.
Qu'est-ce que ça veut dire quoi, ce « Ah »
Alors ça, c'est vraiment...
ouais, bon.
Ouais.
Je me suis senti un peu méprisé.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah non, attends, j'aurais pu faire « Ah ».
Ouais.
Et...
Bah, qu'est-ce qu'il voulait dire ? C'est quoi, ça veut dire quoi, le fait que je suis lion ?
Non, t'es super.
Ouais.
J'adore les lions. Je connais des lions.
Ouais ?
Ouais.
Et toi, t'es quoi, toi ?
Scorpion.
Et ça veut dire quoi ?
Je préfère pas le dire. C'est... Je te le dirai hors antenne.
Tu regardes les Chevaliers du Zodiaque ?
Non.
Et bah, le Chevalier du Scorpion, Milo.
Ah ouais ?
Elle a une attaque qui s'appelle l'aiguille d'Antarès. C'est vrai. On a une aiguille comme ça. Et la galaxie du scorpion, en fait, tu sais qu'elle dessine les points vitaux du corps.
Ok.
Voilà.
Ah ben, c'est un truc puissant alors.
Bah, tu vas en savoir des choses.
Bah ouais.
Dans ta playlist, un de mes morceaux préférés qu'on a joué dans la première de Verven Underground, je sais pas si t'as fait exprès ou pas,
non.
C'est Never Ending Story de Limahl. On parle de ce film juste après. D'écouter Limahl, Never Ending Story, un de mes morceaux préférés tous les temps, choisi par notre invitée Déborah Pham. Tu sais que Déborah, chez moi, une très bonne amie m'a offert le livre Histoire sans fin,
okay.
Avec Laurine en collier.
Ouais.
Je peux mettre des fois. Bon, je le mets pas dehors, mais ça m'arrive des fois de mettre le collier chez moi.
C'est vrai. Et tu te sens comment ?
Je me sens Atreyu, évidemment. Mm-hmm. Hyper Atreyu. Qu'est-ce qui te touche dans ce film et qu'est-ce qui te touche dans ce morceau ?
Le film, je pense qu'il faudrait vraiment que je le revoie. Ça fait un peu partie des films comme les Goonies où il faut que je me remette dedans et que j'ai pas vu depuis très longtemps. En revanche, la musique m'a bercé plus longtemps. Enfin, c'est vraiment une musique que j'écoute fréquemment. Et puis bon, Limahl, génial. J'ai revu le clip il y a pas longtemps qui est fou. Je sais pas si tu l'as déjà vu.
Avec sa vieuche de ouf là.
Ouais.
Ouais.
Et il y a une Corée. Enfin,
ouais,
c'est vraiment super. Je crois qu'il y a Moroder aussi sur.
C'est Moroder qui produit, ouais.
Ouais, et ça, c'est. Enfin, je sais pas. En fait, ça me met dans un mood. C'est typiquement le genre de musique où, tu sais, quand t'as une tâche, tu te dis, ah, ça, tu te mets une charrette. Bah, c'est une musique que je peux écouter on loop. Ouais, toute la journée, je peux faire ça. Je peux écouter que tout le CD, mais. J'ai dit CD.
Tu peux.
Ok.
CD, horoscope, tout
ça. Oui,
c'est
ça. Ouais.
Déborah Pham, ta Never Ending Story à toi, elle est avec quoi ? Elle est avec qui ?
Ma Never Ending Story.
Ton histoire sans fin.
Mon histoire sans fin.
Je peux le traduire.
Bah, en vrai, tu sais, la personne avec qui j'ai monté Mint, on s'est rencontrés par Skyblog interposé quand on avait 15 ans.
Qui est la directrice artistique.
Ouais, exactement. Donc Noémie Varnizi, qui du coup gère la DA du magazine. Et on s'est rencontrés quand elle avait 16 et moi 15 à Strasbourg. Je pense que c'est ma never-ending story de ouf, parce que on se connaît depuis longtemps, on s'est tellement ridé qu'on sait comment fonctionne l'une et l'autre. Et les projets qu'on monte ensemble nous tiennent beaucoup à cœur. Je te disais, ça fait 10 ans. Donc
qu'est-ce que tu veux dire par là, quand tu dis on s'est tellement ridé?
Je dis ça dans le sens où, tu sais, quand tu montes un projet, d'abord, tu as les conflits. C'est un peu comme des relations amoureuses, finalement. Mmh. Au début, c'est la fête, parce que tu montes le projet, c'est beau, machin. Puis au bout d'un moment,
donc, une relation amoureuse, c'est un projet.
Une relation amoureuse, au début, oui, le projet, c'est d'être un couple, tu vois. Donc au début, tu vois les trucs trop chouettes. Je sais pas, tu vas au resto. Tu vas au resto, tu vas au théâtre. Voilà. Je commence à faire des voix, là, ça va pas du tout. J'étais en train de
tout
te faire
permis.
Un bon Jean-Jacques. Mmh. Ouais, tu vas au resto.
Vas-y, Jean-Jacques. Après le resto ?
Et ouais. Et après le resto, tu vas au ciné.
Et après,
après, tu vas jeter du lait sur la porte du poisson.
Ah, Patrick.
Ça va pas du tout. Et donc, Noémie et moi étions. Très, très contente au début du magazine, il y a une espèce d'effervescence et tout est nouveau, t'apprends plein de choses, c'est hyper excitant. Et après, il faut quand même qu'on soit un peu cadré. Parfois, je peux ne pas être cadrée et parfois, elle peut être extrêmement cadrée. Donc, tu vois, il y a un truc où il faut accorder les violons, quoi. Et en fait, accorder nos violons, ça nous a pris un peu de temps. Mais maintenant, c'est tellement bien qu'en fait, on sait exactement comment fonctionne l'une et l'autre. Donc, même le truc, on sait, si je dis ça, ça peut faire switcher, tu le ranges dans ta poche, tu le gardes, tu choisis mieux tes mots, ça c'est cool.
15 ans, Skyblog à Strasbourg. Est-ce que
pour résumer,
est-ce que tu savais déjà ce que tu as envie de faire en fait?
Pas du tout.
Au fond de toi, pas du tout.
Non, je voulais être journaliste quand j'étais plus jeune. En fait, je savais que j'allais faire un truc avec l'écriture parce que moi j'ai toujours aimé lire et écrire et ça a toujours été un truc que j'adorais. En revanche, je pensais pas du tout que j'allais être journaliste comme ça parce que j'étais vachement plus timide quand j'étais plus jeune. Là, ça se voit pas, mais aller vers des gens, c'est un truc que je faisais pas trop, encore moins à cet âge-là, à 13.
Mais souvent, ce métier, ça permet de le faire, tout simplement.
Exactement.
Et ça n'empêche pas de rester timide. Hein.
Mais ouais, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que je me mets, tu vois, quand je flippe, je me mets un déguisement et je me mets en mode Bernard de la Villardière. Je me dis, ouais, ou alors, je sais pas, Frédéric Lopez, hein, tu vois, je me dis, et alors? Et parle-moi.
Derrière ces paysages, où sont les putes? Pardon. Non, mais c'est souvent ça ce qu'ils font.
Oui, oui, exact. Fête, cocaïne, prostitution.
Derrière ces paysages. Ça commence toujours comme ça.
C'est ça. Mais voilà, c'est un peu le déguisement que je mets. Et au début, je faisais beaucoup ça. Maintenant, j'ai un peu plus d'aisance. Ou alors, ça dépend comment tu rencontres les gens. Mais généralement, je me dis, ok, genre, je vais mettre ce masque-là. Donc, je m'habille, je sors de chez moi, je mets mon nez rouge et hop.
Et quand est-ce que tu l'enlèves, ce masque?
Quand est-ce que je l'enlève, ce masque? Quand je suis avec mes proches. Ou même parfois, il y a des gens que j'ai pu interviewer avec qui je me suis super bien entendue après. Et ça devient beaucoup plus naturel. Mais c'est juste le démarrage, en fait. Voilà.
Donc ça part d'Alsace sur un Skyblog. Et on écoute un autre Alsacien, Kalash, Tombolo.
Monter qu'à coucher sans tomber, lever sans l'envie. Croiser toi le pédé en vie.
On vient d'écouter Tombolo de Kalash, qu'on a eu la chance de recevoir dans Verveine Underground. Si vous rattrapez cette émission, vous pouvez également aller sur votre smartphone, rubrique podcast, vous tapez Verveine Underground et vous avez accès à tout un tas d'émissions incroyables, dont celle de Kalash. Nous sommes avec Déborah Pham. Elle a monté ce magazine qui s'appelle Mint, Mint Eat and Explore. Et j'ai à côté de moi, dans le studio d'Europe 1, le studio Coluche, un numéro de Mint, qui est le numéro 22, été 2021, avec en couverture une jeune fille, un cornet de glace et le cornet de glace qui rentre dans le nez de la petite fille. Alors, comment? Pourquoi?
Alors, c'est la couve qu'on a choisie. En fait, depuis, on a fait une espèce de reboot de Mint. Je pense que c'est nécessaire, tu vois, au bout d'un moment, même pour nous, ceux qui y travaillent, de retrouver un petit peu d'énergie et d'entrain. Donc, j'ai refait une espèce de formation On a aussi réfléchi à ce qu'on voulait que ça devienne, Mint, parce qu'au départ, c'était gratuit. Je ne sais pas si je t'avais dit au départ, c'était gratuit. On est passé en payant, parce que comme tu le disais en début d'émission, la presse indépendante, c'est compliqué. Et le papier, ça devient cher, ça devient une denrée rare depuis la crise du papier.
De plus en plus.
Ouais, c'est vraiment compliqué en ce moment. Puis je pense que la hausse du coût de l'énergie ne va pas trop aider le schmilblick. Mais en tout cas...
Et puis il y a aussi Mercure en rétrograde.
Mais t'as les termes, hein,
bah, évidemment.
T'as le jargon. Exactement. Pour en revenir au papier, on a choisi d'avoir une thématique dans chaque numéro. Donc ça, c'était le premier. On a une thématique qui était la thématique glace, qui est assez marrante. En gros, t'as un dossier où on te parle de l'image de la glace dans la photographie. T'as un dossier où on te parle du brain freeze.
C'est quoi le brain freeze? Ah, c'est Cody dans Notre Belle Famille.
Ah,
tu connais pas cette série?
Si,
c'était
mais...
une série sur M6 où il y avait un mec qui s'appelait Cody et en fait il mangeait à chaque fois des glaces et il avait le cerveau complètement éclaté. C'est comme ça, ouais.
Exactement. Mmh. Et c'est marrant, c'est un truc dont on parle pas trop en France, c'est très, très américain, mais tu vois, tu bois ton slushy bleu trop vite et là t'as ton cerveau qui fait...
Il y a des gens qui provoquent ces sensations, c'est ça?
Ouais.
Tu es venu avec une playlist sublime. Avant de se quitter, on écoute encore un extrait, Blondie, In The Flesh. D'écouter Blondie in the Flesh, choisi par Déborah Pham du magazine Mint. Pourquoi avoir choisi Blondie?
Alors, grande fanatique de Blondie et de Debbie Harry, et puis aussi, j'adore ce slow, je le trouve super, et je regardais encore, c'est pas un clip, en fait, il passe en concert, je regardais ce matin, et je me disais, Debbie Harry est génial, quoi. C'est super beau, et en fait, c'est drôle, mais ils ont commencé leur carrière avec... beaucoup de phase B, quoi. Ça n'a pas démarré tout de suite pour eux, mais je trouve que les vieilles chansons sont vraiment, vraiment trop chouettes.
T'as choisi un slow? C'est quand la dernière fois que t'as dansé un slow?
Wow. Souvent, je danse toute seule, en vrai.
Ok, pas de problème.
Dancing with myself. Mais ça se fait encore, danser des slow?
Mais je sais pas, je te pose la question. Moi, je danse pas, je suis dans un studio de radio sur Europe 1.
Peut-être j'ai whiné, peut-être j'ai un peu whiné.
T'as whiné?
Non, je sais pas.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est whiner pour les auditrices et les auditeurs d'Europe?
Peut-être qu'on a... Ouais. Alors, peut-être que j'ai ondulé.
T'as ondulé?
Peut-être j'ai ondulé. Mais j'en ai pas le souvenir, là, comme ça. Mais ce soir, je vais peut-être... Non, je vais pas faire ça.
Pourquoi?
Parce que je pense que vraiment, c'est un truc qu'on a perdu, le slow, encore plus en boîte, tu vois. Et puis même, j'aurais pas trop la démarche de... Alors, on va danser un slow. C'est devenu un peu ringard. Mais vu que le ringard est en train de revenir sur le devant de la scène... J'ai bon espoir que le slow revienne également.
C'est quoi ton premier grand souvenir de restaurant?
Mon premier grand souvenir de restaurant, je pense que c'était, je pense que c'est dans le premier numéro de Mint. On est allé à la Grenouillère, qui est dans le nord de la France. Je crois que ça s'appelle la Madeleine sur Montreuil, un truc comme ça. Le nom du patelin. Et le chef, c'est Alexandre Gauthier. Et c'est un mec d'une élégance folle, une grande finesse, hyper cultivée. Il adore la musique, il adore l'art, il est intéressé par tout. J'ai l'impression que ça, en fait, c'est une espèce de théorie du ruissellement quand tu t'intéresses à plein de choses. Il arrive à l'insuffler à son plat et ça, c'est vraiment cool. Et j'avais fait ce restaurant avec Noémie. Et le mec est arrivé, et un serveur qui arrive à la table avec une espèce de branche qui fume, tu vois. Il la soulève. Et là, t'as un morceau de homard, mais qui est encore dans sa coquille. Mmh. Et en fait, le gars, t'as une assiette, t'as plus de couvert. Et il dit, donnez-moi un couteau, s'il vous plaît. Et en fait, non, tu dois le faire avec tes doigts. Et en fait, la démarche d'Alexandre, c'est de se dire, quand tu vas pêcher, quand tu fais de la cuisine, tout n'est pas simple, en fait. Tout va pas arriver tout cuit, simplement. C'est cool, en fait, aussi, de à la fois ludique, et puis tu comprends un petit peu la démarche du chef. Et voilà, on a dû décortiquer le truc à la mano, tout chaud, dans nos assiettes.
À la mano. Déborah Pham, cette émission touche à sa fin. Si ce moment qu'on avait partagé était un plat et que là, comme ça, tu devrais faire un petit frichti, qu'est-ce que tu nous ferais pour les auditrices et les auditeurs d'Europe 1?
Je ne sais pas si je pourrais le faire hyper vite, mais je pense que je nous ferais un ramen. On serait trop contents tous les deux de manger un ramen.
Comme Naruto.
Mmh.
Déborah Femme, merci d'avoir été avec nous.
Merci à toi, Mouloud.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton aventure, à Meet Magazine, à ton restaurant Maison Maison?
Que je m'amuse toujours autant dans 10 ans.
Mmh. Et bah, tu vas le faire, il n'y a pas de raison. Meet Magazine, c'est en librairie, mais on peut le commander sur Internet. Le restaurant Maison Maison, c'est à Paris. Verveine Underground revient dans un instant. On écoutera un petit Kanye West. Et puis un petit Daniel Balavoine.
Les sanglots, le péché leur fait chaud.
A tout de suite sur Europe 1.
Dieu que c'est beau.
Verveine Underground.